Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Heat up your backyard with a new fire pit. Our fire pit bundle includes everything you need. Concrete landscape blocks, steel ring insert, pea gravel, and adhesive. All bundled together to make your project quick and easy. Visit us today in store or on Menards.com and save big on our full selection of fire pit projects and accessories today. Save big money at
Menards. When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today.
Section 4 de L'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Deuxième partie. 2. L'épreuve fut telle de ma nouvelle vie que le dortoir retrouvé chaque soir me parut un asile où je goûtais le bonheur de n'avoir plus rien autour de moi des cris et des bruits de la journée. Dès le coucher, j'y pouvais connaître le calme et m'y retrouver d'autant mieux que la présence silencieuse de mes camarades suffisait à me garder de toute crainte nocturne. Il nous fallait monter, le repas terminé, dès 8 heures, et chaque élève se hâtait si bien à se dévêtir que la plupart n'entendaient point le coup lointain de l'horloge sonnant la demie sur la ville. Je m'endormais moins vite, et seulement lorsque le dortoir sommeillait lui-même dans la pénombre, après le passage du veilleur. Dès les premières nuits où je l'aperçus, cet homme, qui faisait l'ombre sur nous et qu'on ne rencontrait jamais le jour, m'inquiéta. Il entrait d'un pas claudiquant, qui balançait sa lanterne sourde. De mon lit, je le voyais se hausser sur une jambe pour atteindre la lampe suspendue du côté que j'occupais. Elle éclairait un instant sa grimace, mais un tour de clé étranglait la belle flamme bleue qui agonisait en hoquet. L'homme gagnait ensuite le fond de la salle, l'ombre semblait, par bond, suivre sa lanterne, et l'obscurité devenait complète dès qu'il atteignait l'autre lampe. Il sortait aussitôt, et on l'entendait verrouiller la porte. Mais on distinguait alors la veilleuse oubliée devant les longs plis des rideaux, fermant l'alcôve du maître. Une pénombre, douce, s'établissait autour de la vacillante clarté, qui faisait plus irrésistible la sollicitation du sommeil. À ce moment, les jambes, frileusement repliées, osaient se détendre et tâter les profondeurs de la couche qu'elle tiédissait peu à peu. Les fenêtres, en face de moi, avaient dans le bas des vitres dépolies, mais, par les carreaux d'en haut, s'apercevait la pure nuit d'hiver et ses astres. Quelques souffles commençaient de s'élever des lits où le sommeil gagnait de proche en proche. Les plus robustes, lassés des jeux de la journée, succombaient les premiers, la bouche ouverte, leur rauque sifflement s'entremêlant de paroles vagues. D'autres paraissaient résister, secouer l'emprise, puis s'abandonnaient, avec un soupir, résignés d'avance au cauchemar probable. Je ne cédais que le dernier, jouissant de la paix retrouvée, sauvé des heures de la cour, de la contrainte, de l'étude, savourant en moi-même l'amertume de mon isolement. Je me plaçais sur le côté, la face tournée vers la clarté, pour m'attarder à contempler sous mes paupières d'étranges lueurs qui s'étiraient. Il m'arrivait d'entendre sonner 9 heures avec un drôle d'écho qui doublait chaque coup et me faisait me tromper en les comptant. Le dernier train sifflait dans la campagne. Chaque robinet du lavabo laissait à son tour tomber une goutte claire. J'écoutais la chanson formée se reproduire indéfiniment, et c'était enfin le consentement de tout mon être, la chute aux pays inférieurs, où passent les ombres terribles ou bizarres qu'on se rappelle y avoir connues en se réveillant le matin. C'est à la lueur des lampes rallumées que nous laissions nos lits au réveil. Des étoiles brillaient encore sur la cour que nous traversions pour gagner l'étude éclairée où le poêle ronflait sans chauffer. Les portes vitrées se refermaient sur nous. Le maître s'installait à la chaire. La journée commençait. J'occupais une des tables de la première rangée avec un élève de ma classe, un peu plus jeune que moi. Il avait une face ronde que fendaient des yeux craintifs et une bouche souriante. Une blouse noire, serrant son cou mince, tombait en cloche autour de lui. Ses doigts étaient enflés d'engelure. Dès le premier jour, il me demanda pour l'écrire en belle cursive sur mes cahiers et mes livres mon nom, qu'il égaya. Il m'apprit qu'il s'appelait Charlot et qu'il avait chez les moyens un frère très fort en gymnastique. Il me montra, dans une boîte de savonnette dont il prenait le parfum, des bons points bleus et roses que sa conduite lui avait valu. En retour, je tirai de mon plumier de cuir bouilli qui fleurait la pomme les sous neufs trouvés à Noël dans mes souliers. Mais il sourit quand je lui dis de quelle main divine je pensais les tenir. Je le vis se pencher vers un camarade qui me regarda curieusement. Une nouvelle courut de proche en proche. Je fus gêné et serrai ma monnaie d'or. Charlot se rapprocha de moi. Il lançait en parlant de fréquents coups d'œil à la chaire et répondait autant qu'il le pouvait de la tête avec le même sourire pour dire oui et pour dire non. Il parut tout à coup figé sur son livre, et mon insistance à l'en tirer me valut un rappel du maître qui nous regardait depuis un instant. C'était un jeune homme d'aspect soucieux, qui travaillait à l'aide d'épais dictionnaires, et devait souvent laisser sa besogne pour réprimer quelques bruits, renseigner les élèves embarrassés ou en exciter d'autres au devoir, dont il se laissait distraire. Quelques-uns apportaient de l'application à leurs tâches, mais dès que le poêle devenu rouge répandait sa chaleur, la somnolence pesait sur cette étude du matin. Je n'y échappais guère et je ne me penchais sur mon livre que pour mieux cacher mes yeux lourds. Parfois, le ciel se colorant derrière les arbres de la cour attirait l'attention de l'un de nous qui montrait aux autres ce prétexte à s'extasier. Il s'empourpra tellement à certaines aurores que plusieurs se demandaient, rêvant d'incendie, ce qu'ils sauveraient d'abord de leur casier. Mon autre voisin, Calva, était court et robuste. L'immobilité lui devenait si pénible dès qu'il l'observait un quart d'heure qu'après avoir vainement sollicité l'autorisation de sortir, il tentait d'obtenir du maître celle de ramasser le papier sous les tables. Cela lui permettait d'errer à quatre pattes entre nos bancs et de se rapprocher du poêle sous le prétexte d'y porter les détritus. Mais le maître devait encore veiller à ce que nul d'entre nous n'encourût le risque de brûlure. Il chassait Calva, qui découvrait alors que la boîte à eau, placée sur le couvercle, était vide, et s'offrait à l'aller remplir à la fontaine, afin de tenter, au retour, une station près du foyer. Entre le poêle et la chaire se trouvait une table réservée aux élèves que le maître tenait à ne pas perdre de vue. L'élève qui l'occupait en profitait pour faire griller, chaque matin, un morceau de pain gardé du repas de la veille, afin d'en agrémenter son premier déjeuner. Il paraissait s'absorber dans une lecture et tendait, derrière lui, vers le fourneau rougi, son bras armé d'une règle au bout de laquelle la tranche de pain était fixée. Le maître ne pouvait rien voir et l'étude habituée ne prêtait plus attention à ce manège. Je sus que cet élève s'appelait Ravet et que son incapacité d'apprendre le faisait mépriser. Sa maigreur était extrême et des vêtements trop courts l'accentuaient. Il marchait courbé, les coudes en dehors, et ses poignets, quasi violets, ne parvenaient pas à se dissimuler dans ses poches. Une fois, nous eûmes par lui un grand sujet de rire. Sans qu'il s'en aperçût, Calva vint enlever le pain piqué à l'extrémité de la règle, et, longtemps, l'étude se divertit du geste inutile que continuait Ravet. Le maître, promenant sur nous ses yeux inquiets, quelques regards lui désignèrent l'élève qui provoquait le désordre et dont la surprise déchaîna notre gaieté. Lorsque Calva, se haussant de son mieux, vint poser le pain à demi grillé sur la chaire. Le maître rétablit le silence, et la cloche sonnant le petit déjeuner, nous dûmes tout laisser pour nous mettre en rang et sortir. Je fus, dès les premières récréations, l'objet d'une curiosité qui s'apaisa vite sur mon refus de jouer. La raillerie d'un élève qui avança que j'attendais peut-être le Père Noël excita le rire, puis le vide se fit autour de moi. Seul Charlot demeura, Il me montra son frère poursuivant le ballon. La figure du grand Charlot était alors si froncée qu'on l'eût dit forcé de jouer. Lors d'une récréation de 4 heures, je le vis venir vers mon camarade, lui enlever, sans presque le demander, le morceau de pain que le petit mangeait lentement, et retourner au jeu en doublant les bouchées. Le pain, cependant, ne nous était pas refusé. Il suffisait, la distribution faite, d'aller à la dépense pour en avoir encore. C'est à quoi se résigna Charlot quand il eut les mains vides. Il m'en rapporta même un morceau que je pris, sans faim. Le froid était vif pour nous qui ne courions pas, mais circuler dans le tumulte de la cour m'effrayait, et il ne venait pas à l'idée de Charlot que quelqu'un pût vouloir de lui dans un jeu. Il n'y avait que 2 cours séparées par une large allée, l'une pour les grands, l'autre pour nous, entre lesquelles les moyens se partageaient suivant leur âge. Dans la nôtre, le groupe le plus important s'attribuait le ballon que l'on chassait d'un camp à l'autre, en s'excitant de la voix. D'autres élèves jouaient aux chasseurs et s'atteignaient d'une balle en jetant des cris. Plusieurs autres, fils de fermiers des environs, se réunissaient pour se distraire entre eux et parler leur langue paysanne. Malgré la saison, ils jouaient aux billes d'une main engourdie, tandis que l'autre main, à l'abri dans leur poche, y comptait le pécule amassé. Le maître allait et venait le long de la barrière, suivi de 2 élèves qui causaient avec lui. Le fond de la cour n'était qu'à demi clos par la façade de la chapelle. Une haie, dévêtue, laissait voir quelques arbres, le jardin potager jusqu'au mur de clôture, au-delà duquel s'étendait la campagne que dominait un coteau lointain portant des toits et la tour carrée d'une église. La cloche sonnante en avance, à cause du crépuscule prompt, soulevait une protestation générale. Mais il fallait rentrer et, sous le gaz rallumé, nous reprenions les cahiers et les livres. Il y avait d'abord un tumulte général dans lequel chacun s'occupait à extraire de son casier fixé au mur les objets nécessaires au travail de la soirée. Le maître y mettait fin d'un ordre rapide jeté au plus lambin et, peu à peu, le calme rétabli, l'étude prenait sa bonne tenue habituelle. Au vrai, plus d'un continuait en esprit la partie interrompue et, courbé, le porte-plume aux dents, s'oubliait à contempler par le vitrage des portes la montée de l'ombre dans les branches. D'autres achevaient de manger en cachette le pain fourré dans leurs poches pour courir plus librement et qui semblait meilleur à 7 heures. Les 5 coups de l'horloge tombaient, un à un, dans la cour. L'Angélus aussi venait battre. Je songeais à la grangère, au crépuscule sur le jardin, au feu plus vif dans le gris de la petite salle, à ma tante qui se signait, au beau devoir que j'eusse fait sous la lampe. D'un petit coup frappé sur la chair, le maître me rappelait à la tâche et ses yeux me fixaient, les sourcils rapprochés. Il était sévère, mais ne s'accordait rien de plus que ce qu'il nous permettait. Il ne se chauffait jamais au poêle, se montrait exact et n'apportait en étude que des livres de travail. S'il punissait durement une légère désobéissance, il suffisait d'un peu d'application, de bonne volonté témoignée pour le faire revenir sur sa vivacité. Il s'appelait Monsieur Lorrain. Une fois, j'eus besoin d'aide pour mes problèmes que je ne comprenais pas toujours très vite et je me rendis près de lui. Il eut un geste d'impatience et m'écarta de la main, mais me retint aussitôt par le bras. Je le vis continuer de chercher un mot sur le dictionnaire, y renoncer, puis me demander avec douceur ce que je désirais. Ces études du soir étaient gênées par la présence des externes qui demeuraient jusqu'à 7 heures et ne laissaient pas une place vide. Après leur départ, les rangs moins serrés, un peu d'air venu par les portes entr'ouvertes, une détente se faisait. Ceux qui montraient au maître leurs devoirs achevés pouvaient prendre un livre dans la bibliothèque où, si tous les avaient terminés, M. Lorrain lui-même lisait un conte pour récompenser notre sagesse. En un clin d'œil, les tables étaient débarrassées, les bras croisés, l'attention suspendue. Le gaz seul bruissait comme un essaim de mouches parmi les aventures fantastiques où passaient des bêtes fauves et des chasseurs. Les récits plus simples avaient moins de succès et n'obtenaient pas même le silence. Pourtant, rien ne pénétrait mon âme comme l'histoire de Blanquette, la chèvre de M. Seguin, que je suivais dans son escapade. Tout à coup, la montagne devint violette. C'était le soir. « Reviens, reviens !» disait la trompe. « Ouh, ouh !» faisait le loup. « Il la mange, à la fin, » me souffla Charlot, au cours de la première lecture. et il hochait la tête d'un air grave. Ses mains se gonflaient si fort à la fin de la soirée qu'il me disait en les posant sur la table « Regarde mes crapauds ». Le doigt qu'on y appuyait y laissait une trace claire. Il les frottait lentement sur le drap de sa culotte avec une grimace souriante sans cesser d'écouter de son mieux. La cloche du dîner interrompait la lecture. Il fallait sortir en rang dans la nuit froide et tout à fait noire et laisser passer les moyens qui se moquaient de nous voir parler du conte que nous venions d'entendre. Ce fut pendant les récréations où je continuais de rester spectateur que j'appris à mieux connaître mes camarades. Rupert était roi. Il dominait moins par sa force brutale que par son adresse au jeu. Campé sur ses jambes écartées, il rejetait son bras en arrière et lançait la balle qui rebondissait en touchant le but. Son coup de pied dans le ballon retentissait et chassait celui-ci à travers la cour et parfois au-dessus de la haie, jusqu'au fond du jardin. Si le ballon se logeait dans les branches, c'était lui qui, à coups de boules en bois, le faisait choir. C'était là un événement fréquent qui rangeait la cour entière en demi-cercle autour de son chef. Calva courait après les boules qu'il rapportait et les grands eux-mêmes, intéressés, s'accoudaient sur leur barrière de l'autre côté de l'allée. Parmi toutes les autres, éclatait la voix de Rupert. À chaque instant, elle s'élevait pour jeter des ordres, une excitation à combattre ou des reproches qu'il clamait, la main tendue vers les maladroits. En général, on ne lui répondait point. Le grand Charlot, seul, essayait de tenir tête et de se justifier. Mais une telle colère empourprait la face de Rupert, sûr de son droit, que l'autre n'osait plus insister. À se dépenser ainsi, la chaleur lui venait vite, il quittait sa veste qu'un petit accrochait à la balustrade ou gardait sur le bras. Son torse apparaissait, pris jusqu'au cou dans un maillot de laine bleue qui faisait valoir ses cheveux bruns. Ses jambes, toujours nues, étaient rouges, et on ne lui savait pas d'amis. Il semblait dédaigner la division entière et ne s'intéressait qu'aux grands qui lui parlaient parfois d'une cour à l'autre. Un seul des nôtres pouvait avoir quelque crédit près de lui, Méjean, dont la sympathie le flattait. Méjean était le mieux vêtu des internes. Sa casquette de touriste et ses souliers de cuir fauve excitaient l'envie sans qu'on pût s'en procurer de semblable. Il portait, comme Rupert, un maillot de couleur foncée, mais le col et les poignets s'ornaient de laine claire. Et la moindre déchirure suffisait pour qu'il en changeât. Rupert le prenait dans son camp, excusait les fautes qui lui arrivaient de commettre, et se coiffait toute une récréation de la casquette convoitée que son béret remplaçait sur la tête de Méjean. D'autres élèves s'agitaient autour d'eux que je ne connaissais pas encore. Il y avait un groupe qui ne jouait jamais. Ravet s'isolait et rejetait toute tentative de causerie en répétant avec un ricanement et sans y répondre les paroles qu'on lui adressait. Il allait, tête basse, les mains pendantes ou à demi rentrées dans ses poches trop courtes, les yeux aux cailloux de la cour parmi lesquels il ramassait sans cesse quelque chose. Il trouvait ainsi des billes, des boutons de chemise et d'uniforme, des canifs, des gommes, des porte-plumes, des crayons et même de l'argent. Il rendait pour un ou plusieurs bons points, suivant leur importance, les objets qu'on ne manquait pas de lui réclamer sitôt leur disparition constatée. Mais il faisait d'abord la sourde oreille, exigeait force détails, cherchait à faire prendre en échange un bibelot de moindre valeur et ne restituait le plus souvent que sous la menace de coups. Florent et Mouque se promenaient ensemble et se récitaient les leçons l'un à l'autre. Ils avaient les yeux également noirs. Mais ceux de Florent étaient empreints de douceur, et si grands qu'on les eût dit sans cesse étonnés, alors que le regard de Mouque, qui grognait pour rendre un service, restait boudeur sous des sourcils inclinés. Lorsque la balle venait près d'eux, ils la renvoyaient au jeu, et le coup de pied de Mouque était toujours rageur. Deux autres encore causaient de préférence avec le maître, qu'ils venaient prendre pour juge après avoir disputé entre eux. Ils en arrivaient parfois à faire cercle autour de leur querelle. Rupert intervenait alors, les séparait en écartant les bras, mais ils continuaient à s'adresser de loin les arguments qu'ils jugeaient propres à convaincre. La discussion portait toujours sur quelques points de leur lecture, existence du Nautilus ou difficulté pour l'obus de Jules Verne d'atteindre la Lune. Ils étaient tous les deux de petite taille et inaptes au combat. L'un, Terrouet, avait un profil mince, au menton aigu. L'autre, Béringue, les joues gonflées, les yeux saillants, la bouche pleine de bonnes raisons qu'il ne pouvait arriver à dire. Séparés de force, ils prenaient à témoin ceux qui les emmenaient, les gagnaient chacun à sa propre cause, et revenaient suivis de partisans pour reprendre le débat. Ils le portaient enfin d'un commun accord devant M. Lorrain et restaient jusqu'à la fin de la récréation aux côtés de celui-ci. Béringue était né en Espagne et ne s'exprimait qu'en phrases compliquées où il s'appliquait à faire entrer les mots les moins usuels glanés dans ses lectures. Terrouet le démontait par sa raillerie et l'inextinguible rire dont il était saisi, plié en deux comme par une colique. Il ne se frappait jamais et M. Lorrain arrivait quelquefois à les mettre d'accord. Charlot s'intéressait comme les autres aux incidents survenus. Il demeurait le plus souvent adossé à la barrière, les yeux fixes, ses mains sous la blouse, sifflotant entre ses dents serrées sur lesquelles ses lèvres s'écartaient, des airs de petite danse, des morceaux de Stribog dont il connaissait tout le répertoire, à force de l'avoir entendu lorsqu'il allait chez sa mère, qui était professeur de piano. Je suis qu'on l'appelait « petit vieux », parce que son front bombé se ridait dès qu'il regardait en face. Il m'arrivait encore d'être tiré du sommeil par le passage du veilleur. Deux ou trois fois, chaque nuit, il traversait le dortoir de sa marche boiteuse. Sa lanterne projetait un secteur clair sur le plancher. Il l'élevait jusqu'au visage du dormeur qui parlait haut et secouait l'extrémité du lit de fer pour obtenir le silence. Je m'éveillais une fois comme il fermait le lavabo ruisselant depuis des heures et dont le bruit d'eau mêlait à mon rêve une impression d'interminable pluie. La plupart du temps, il passait comme une vision de plus dans le songe de ceux qui le pouvaient entrevoir. Derrière lui se reformait la pénombre tranquille. L'alcôve était un temple devant lequel palpitait la veilleuse. Les longs plis des rideaux semblaient frémir. Les haleines montaient, paisibles ou nasillardes, haussées par instants jusqu'au ronflement. Rupert, qui était mon voisin, dormait d'un sommeil lourd où, sans l'en tirer, les rêves tumultueux le pouvaient assaillir. Il lui arrivait d'y continuer son rôle bruyant de la journée, de crier des noms, une injure, de lever le bras ou de sursauter comme retenu en des liens étroits. Quelque enrhumé toussait par quinte folle qui le forçait d'ouvrir les yeux et de s'enfoncer sous les couvertures pour étouffer l'accès. À toute heure, sans fin, s'élevait la plainte dont Florent se berçait lui-même. Il passait inaperçu dans le jour par son application et son silence, mais, dès que le sommeil l'avait pris, un gémissement s'échappait de ses lèvres et ne cessait plus jusqu'au matin. De mon lit, je distinguais celui de Béringue, à quelques pas du mien, dans la rangée, plus sombre à cause des vêtements dont il était couvert. Sa place était enviée parce que la cheminée des cuisines suivait le mur à cet endroit et répandait un peu de chaleur. Mais Béringue, encore qu'il fût ainsi favorisé, ne consentait à se dévêtir que sur l'ordre réitéré du maître. Il le faisait alors dans une grande précipitation et sautait sur sa couche où il s'accroupissait avec un claquement de dents que l'on entendait malgré le soin qu'il prenait d'appuyer la mâchoire sur ses genoux serrés. Le maître revenu le forçait à se glisser entre les draps sans pouvoir obtenir qu'il étendît ses jambes, frileusement ramenées contre le corps. Les lampes éteintes, M. Lorrain rentrait dans l'alcôve, Béringue tirait à soi veste et culotte et les disposait sur son lit. Tout à côté, celui de Méjean se gonflait d'un bel édredon rouge. Quelques bruits venaient du dehors, pas sonores dans la rue, chanson à mi-voix d'un passant, long miaulement de chat en lutte sournoise, mais un grand calme s'étendait le plus souvent autour de nous, et la respiration même du dortoir invitait à la somnolence. Gernon se levait quelquefois, disait-on. Charlot croyait l'avoir vu, debout, au pied de son lit, une nuit, les yeux dilatés, tâtonnant dans la longue chemise. Peut-être aurais-je eu peur d'être réveillé par lui. Mais il était loin de moi, de l'autre côté de l'alcôve. Mes yeux mi-clos suivaient le tremblement de la veilleuse. La flamme semblait animée et s'agiter de plus en plus jusqu'à me paraître vivante et devenir un lutin joueur et dansant au moment où le sommeil revenait fermer mes paupières.
Fin
de la section 4. Section 5 de L'élève Gilles d'André Lafon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Deuxième partie. Suite. 3 semaines passèrent sans que l'on me permît de revoir la grangère. Segonde, qui venait me porter des fruits ou des confitures, prétextait je ne sais quelle indisposition de ma tante. Je pense que celle-ci ne faisait qu'obéir au conseil du directeur et que c'était pour m'habituer mieux à ma nouvelle vie qu'on me privait d'en sortir.
Je m'en plaignis à ma mère,
je lui écrivais le jeudi et le dimanche, seul jour où nous fussions autorisés à correspondre. Je l'aurais fait plus souvent si j'avais pu, comme mes camarades, cacher mon travail, mais j'occupais la première rangée de table en étude, et mon papier à lettres était rose. Le maître se serait bien vite aperçu de ma témérité. Dans ses réponses datées d'une petite ville de Provence, ma mère me demandait de prendre patience, de travailler bien, de n'être pas triste, et m'assurait de sa grande affection. Je gardais ses lettres sur moi et les relisais chaque soir, mes devoirs achevés. En me couchant, je les glissais sous mon traversin. Il me fallut suivre, outre celle du jeudi, la promenade du dimanche, qui m'était plus pénible encore. La ville que nous traversions, rangée par deux, avait son air de fête, et les gens s'arrêtaient sur les allées pour nous regarder passer. Un peu de fierté me venait de mon uniforme, je l'oubliais à voir les enfants simplement vêtus qui tenaient la main de leur mère. Les dernières maisons dépassées, le maître donnait le signal, et, les rangs rompus, nous allions groupés à notre gré. J'éprouvais d'abord quelque joie de me trouver à l'air libre et devant la campagne, puis, peu à peu, je ne sais quelle langueur me pénétrait. Les champs étaient déserts, les logis fermés, des appels aux vêpres traînaient sans qu'on pût deviner où sonnaient les cloches. On eût cru, par moments, qu'elles tintaient très haut, au-delà de la voûte grise du ciel. Nous marchions d'un pas mesuré, que le maître hâtait quand il le jugeait trop peu rapide pour le parcours imposé. Ce n'était pas toujours M. Lorrain qui nous conduisait, mais quelquefois le maître des moyens, dont la moitié des élèves se joignait à nous. Il était violent, aigri par sa division difficile et se montrait dur, même avec nous. Quel qu'il fût, le maître ne voulait pas qu'on demeurât en arrière. On avançait en causant le long de la route, à deux ou à plusieurs, suivant les sympathies. Certains allaient seuls, j'étais souvent de ceux-ci. Les herbes commençaient à pousser aux pentes des fossés, et dans l'épaisseur épineuse de la haie restaient piqués les fruits rouges de l'aubépine, ou la menue poire orangée de l'églantier. Il traînait une odeur de feuilles rouies. Au loin, après les champs de vigne, où se profilaient des arbres nus, l'horizon pâlissait, sous un voile de brouillard fin. Charlot ramassait des cailloux, il ne cessait pas de se baisser, croyant toujours trouver le plus rare, qu'il jetait bientôt à la vue d'un nouveau. Il finissait par gonfler les poches vides de l'uniforme autant que l'étaient, dans la semaine, celles de son tablier, où se trouvaient ensemble un mouchoir, de la ficelle, une toupie, des bons points, de la craie, un couteau et, quelquefois, des choses plus inattendues qu'eût pu lui envier Ravet. Parmi ces cailloux ramassés en chemin, il m'en montra de polis, comme des dragées, d'autres translucides, qu'il pensait être pleins d'une eau congelée. L'un d'eux, plus rugueux, cassé par la masse du cantonnier, laissait voir un cœur cristallin, violet clair, qui me rappelait les grains du chapelet que ma tante disait à l'église. Deux galets, plus gros, choqués ensemble, donnaient une étincelle et sentaient la pierre brûlée. Charlot allait de trouvaille en trouvaille, comme si la route eût été semée d'un trésor sur lequel les autres passaient en traînant les pieds. Devant nous marchaient Bérengue et Terrouet, chacun parlant haut au sein d'un groupe et cherchant à s'intéresser mutuellement. Les moyens que Rupert et le grand Charlot escortaient menaient la colonne. Ils allaient si vite qu'il fallait leur crier d'arrêter plusieurs fois par promenade. Durant l'une d'elles, ils tentèrent d'allumer des cigarettes, mais la fumée les trahit et M. Lorrain nous contraignit à faire halte pour les tancer sévèrement. L'itinéraire fixé d'avance nous ramenait au collège dès le crépuscule. Les premières lueurs naissaient aux fenêtres de la petite ville, les promeneurs regagnaient le foyer, nous rentrions aussi. Il fallait rapidement reprendre au dortoir les vêtements ordinaires. Le goûter nous attendait dans la cour silencieuse. Les études ouvertes commençaient de s'allumer. La cloche sonnait alors l'heure la plus lourde de la journée. Notre effectif réduit par les permis de sortie laissait vide la moitié des bancs, ce qui nous forçait de penser aux absents heureux. Oubliés ou punis, nous étions ceux que le dimanche avait déçus. Pendant la monotonie de la semaine, nous persistions à attendre de lui notre part de joie hebdomadaire. La messe, oui, dès le réveil, à la chapelle, nous semblait déjà une promesse. La matinée passait, partagée entre l'étude et la cour, la promenade, malgré l'ennui de l'habillage, l'inspection au départ, nous distrayait encore. Mais, au retour, la seule perspective nous restait de 3 heures d'immobilité sous les hautes lampes, d'un dîner rapide et du coucher prompt. Il fallait bien s'avouer que le dimanche n'avait pour nous rien tenu de ses promesses. Les livres de comptes ne nous tentaient même plus. Bering les connaissait depuis 4 ans et, couché sur sa table, répondait « Je m'ennuie » à M. Lorrain qui le priait de se mieux tenir. Moi-même, je n'ignorais rien de la bibliothèque rose et les voyages me lassaient. Les plus sages jouaient à pousser un morceau de papier le long des diagonales d'un carré dessiné à la craie ou à chercher des noms de villes sur la carte d'Europe. Mouk seul trouvait le courage de repasser pour le lundi les leçons apprises la veille. Si quelques rires s'étouffaient dans le fond, M. Lorrain ne levait même pas ses yeux, qu'un moindre bruit inquiétait en temps ordinaire. La flamme du gaz se reflétait dans les vitres noires. Il semblait que les heures eussent doublé et que la cloche ne nous délivrerait point. Un par un rentraient les élèves, sortis le matin. Nous nous glissions auprès d'eux pour leur faire compter leur journée. Leurs correspondants les avaient promenés au bord du fleuve, parmi les familles et les enfants de la ville, et les disaient avoir aperçu des externes et rapporté des oranges dont on avait chargé leurs poches au départ. L'uniforme gardé les distinguait encore, et leurs yeux montraient une joie qui n'était pas dans les nôtres. Il en venait d'autres, au repas. Ils s'asseyaient près de nous sans vouloir toucher à leur part, qu'ils cédaient aux voisins. Les derniers nous attendaient au pied de l'escalier du dortoir, mais Jean seul rentrait après l'heure, alors que le maître lui-même était couché. Et la longue salle pleine d'un sommeil que faisait plus pesant le grand air respiré et la marche inaccoutumée. Mais je l'entendais gagner sa place, sur la pointe des bottines qui craquaient, dévêtir sa chemise roide, croquer un dernier biscuit ou laisser tomber de sa poche des noisettes qui roulaient sous les lits. J'eus enfin, en me réveillant un dimanche, la joie de penser que j'allais sortir dans quelques heures. J'en avais reçu l'assurance la veille par Maria, venue me dire en se rendant au marché que ma tante me prendrait au retour de la grand-messe. Lorsque la voiture m'emporta, je souhaitais en moi-même que ce fût pour longtemps. Puis, un tel besoin de parler me saisit que je persistais, malgré le tapage des vitres, à renseigner ma tante sur le règlement de ma nouvelle vie. Elle se perdait dans la distribution des heures, mais je me répétais avec complaisance, au point de ne pas m'apercevoir que nous arrivions. Il me fallait reconquérir mon domaine. Je parcourus le jardin que j'avais laissé mort et qui s'éveillait. De hâtifs personnages jaillissaient partout, et sous ces feuilles recroquevillées, je découvris une violette sans parfum que je cueillis. Le temps était doux, je me sentis libre. Un grand bonheur vint en moi, et la journée tout entière fut heureuse. Les dimanches redevinrent alors la halte certaine que je pouvais espérer durant l'étape de la semaine. Je ne vivais que pour eux, et dans la plus grande sagesse, de peur que la joie que j'en attendais me fût ôtée. Le samedi me devenait insupportable et me paraissait exagérer sa longueur. Je ne pouvais imaginer que mes camarades s'éveillassent le lendemain, résignés à vivre ce jour-là comme les autres, et je ne songeais pas à s'en frémir au temps où j'étais aussi prisonnier. Je trouvais à chaque visite quelques nouvelles corolles ouvertes. Après les personnages, flétris sous les dernières nuits froides, les crocus étaient sortis en collerette jaune. Il me semblait qu'ils la prenaient pour me recevoir. Les jacinthes doubles gonflaient leurs grappes roses ou blanches. Puis, ce furent les anémones et les longs et tendres des lilas. En même temps qu'au bout des branches, les bourgeons de marronniers s'ouvraient en gousses trop mûres. Les rosiers se hasardèrent à déplier d'humbles feuilles transies et toutes roses dans la lumière. Des pousses dont je ne savais ni le nom ni la fleur crevaient la terre friable des massifs. Un jour, je trouvai des pervenches. Je priai ma tante de me laisser inviter Charlot. Il n'osait accepter sans son frère, mais celui-ci ne se montra point jaloux de le suivre, et je pus amener mon camarade. Le plaisir le fit presque muet. Il manifestait un grand respect envers Segonde et levait sur ma tante des yeux reconnaissants. Nous tentâmes de jouer dans le jardin, mais toutes les choses l'attiraient. Il se pencha au bord du bassin où vivaient deux poissons gris qui passaient et repassaient sous le reflet de notre visage. L'herbe fourmillait au soleil de bestioles plates et rouges, marquées de noir sur le dos. Charlot m'assurait que c'était leur nom, que chacune portait ainsi, écrit à l'encre, pour ne pas se perdre. Elles allaient le plus souvent, liées par couple, et marchaient de côté. Il découvrit des escargots sous le buis des bordures et se mit à les recueillir dans sa casquette, pour les porter aux poules, que nous regardâmes les décortiquer d'un bec brutal sur le sol. Leur caquetage et leur œil curieux amusaient Charlot. Il remarquait la prudence avec laquelle elles posaient à terre leurs pattes, un instant repliées. L'ombre les vêtait de serge noire, mais leur plumage imbriqué devenait au soleil une moulante armure qui luisait. Nous prîmes dans le foin leurs œufs tièdes et les portâmes à la cuisine, comme on nous appelait pour le goûter. Sur le pas de la porte, Segonde nous tendait des tartines, où sa meilleure confiture s'étalait. Nous les mangeâmes sous la charmille, dont les feuilles naissantes laissaient filtrer un jour vert. Charlot me parla de sa mère qui vivait seule et le laissait depuis quelque temps sans nouvelles, à cause d'un voyage qu'elle faisait. Elle l'avait confié tout petit à un parent dans les Landes et ne put de longtemps l'y aller chercher. Quand elle revint, Charlot l'appela « Mademoiselle » et s'étonna de l'avoir pleurée. Elle l'envoya rejoindre l'aînée au collège. Elle les y surprenait quelquefois de sa visite. Je pus la connaître un jeudi dans la cour où elle s'était avancée. Les grands se la montraient des yeux et souriaient en parlant bas. Le goûter terminé, nous regardions entre les branches le paysage calme du dimanche. Charlot faisait aller ses jambes sous le banc et les dents rapprochées susurraient une polka qu'il aimait. Soudain, je m'aperçus qu'un œuf oublié dans ma poche venait de s'y briser. Nous nous entendîmes pour n'en rien dire, mais nous eûmes devant ma tante de tels regards de complicité que je dus avouer ma maladresse et livrer ma veste au nettoyage. Chaque fois ensuite qu'on nous servit des œufs au réfectoire, Charlot ne manqua pas de me faire signe en souriant, parce qu'il lui rappelait notre journée à la grangère. Je retrouvais ces jours-là l'accueil de la maison au crépuscule lorsque devenait hostile le jardin où je m'attardais. La lampe s'allumait, le feu brillait encore et son reflet dansait au panneau du bahut. J'avais obtenu par faveur de prolonger jusqu'au lundi matin mes sorties. Je savais que le sommeil seul finirait ma soirée et que toute la nuit me séparait du départ. Les heures passaient doucement battues par l'horloge dans sa gaine. Le livre était beau, le repas tranquille et je me souvenais alors de ma prière. Pâques approchait. La sortie était fixée à la veille des rameaux. Chacun de nous possédait un calendrier de poche où il biffait, un à un, les jours qui nous séparaient encore des vacances. On ne calculait plus seulement leur nombre, mais celui des heures et des minutes, sans tomber d'accord sur le résultat. Des feuilles circulaires où nous dûmes inscrire l'heure du départ, le but du voyage, et le moyen de locomotion nécessaire à celui-ci. Rupert, fils d'un propriétaire des environs, partait seul et à pied. Florent, originaire d'une commune voisine, s'en allait avec le groupe des ruraux qu'une même voiture venait quérir. Calva et Méjean prenaient, avec quelques autres, le chemin de fer du chef-lieu. Terrouet descendait le fleuve, Gernon le remontait. Après avoir craint de rester, Bereng allait revoir l'Espagne et montrait sur la carte, à travers landes et montagnes, le trajet qu'il devait accomplir. Une fièvre d'impatience nous gagnait. Contenue dans notre étude, elle agitait les grands et soulevait les moyens que nous entendions à travers la cloison bourdonner en chœur ou éclater d'un bruyant rire que la voix de leur maître ne parvenait pas à dominer. Des retenues furent infligées, quelques départs retardés, mais les maîtres se punissaient ainsi eux-mêmes et leur sévérité, désarmée, s'atténuait. Le samedi désiré vint enfin et, dès 4 heures, avec le flot des externes, une partie des nôtres s'écoula. Il me fallut attendre que Justin vînt me chercher, et, comme il tardait, je vis appeler les derniers groupes que les maîtres conduisaient à leur train. Quelques grands et moyens punis devaient demeurer la nuit encore. Ravet ne sortait pas, Charlot non plus, l'aîné seul ayant trouvé asile chez son parrain. Calva demeurait aussi, on venait de découvrir qu'il se livrait, aidé d'un externe, un commerce d'oranges fort rémunérateur et deux jours de consigne devait l'en châtier. Je promis à Charlot de venir souvent le prendre en laissant le collège à mon tour. Mais du seuil où je me retournais, je le vis qui pleurait dans la grande solitude des préaux. Je retrouvai ma vie paisible à la grangère. Une lettre récente de ma mère y annonçait son retour prochain et sa visite probable pour la semaine suivante. Ma tante m'en lut quelques passages qui s'appliquaient plus expressément à moi, et j'y trouvai une abondance heureuse de projets et de tendresse, qui me réjouit d'autant mieux que j'étais moins accoutumé à tant d'allégresse. Dès le dimanche, nous fîmes bénir à l'église des branches de laurier fleuris qui sentaient l'amande ouverte, et que Segonde fixa sous le crucifix à la tête de nos lits. Puis, avec la semaine sainte, un peu plus de silence sembla descendre sur les champs. La petite ville où il m'arriva d'accompagner ma tante pour le salut ou l'office du soir me parut elle-même pénétrée de recueillement. Je la crus déserte, le vendredi et le samedi saint. Il faisait gris. Un grand vent nous forçait de baisser la tête. C'est à peine si nous rencontrâmes quelques femmes, se rendant comme nous aux ténèbres ou au chemin de croix. Leurs pas discrets s'entendaient dans la rue où des boutiques étaient closes. Nous priâmes devant le Christ voilé d'un losange violet. Les cloches ne tintaient plus. « Elles sont à Rome, » m'avait dit Segonde. « Il faut se lever tôt pour les voir partir. » J'étais demeuré sans réponse à cause du souvenir de Noël et de ses prétendus cadeaux. Mais tant de silence me frappait. Les seules ressources de la maison suffisaient à composer nos repas. Ma tante dînait d'une collation de confiture et de laitage. Je crois qu'elle ne mangea pas le jour du vendredi saint. Elle m'assura toutefois que les oiseaux du ciel s'en dispensaient eux-mêmes. Je sentais comme une attente autour de moi. Pendant les tièdes heures que je passais au jardin, le bruit du vent dans les branches, l'odeur d'herbe, l'enveloppe collante des derniers bourgeons que mes doigts rencontraient dans le sable, le cri des moineaux, le bouquet de fête des pommiers et les haies déjà blanches empêchaient que je fusse triste. Le verger en fleurs s'emplissait d'un parfum traînant de miel et d'amandes. Des papillons l'assaillaient vers midi, puis venaient des bourdons de velours et des mouches moins vives, dont le soleil traversait le corps diaphane. Ma joie n'attendait qu'un signal pour jaillir. Ma mère arriva la veille de Pâques et nous porta les regrets de mon père retenu au chef-lieu. Le réveil du lendemain fut une ivresse. Les baisers heureux s'immêlèrent au chant des cloches revenues, à la fraîcheur de la route que nous suivîmes pour aller au village voisin ouïr la première messe. Ma mère et ma tante communièrent côte à côte, et je vis le soleil entrer, rouge et violet, par les vitraux du cœur. À la sortie, le bonheur était sur les visages, le désir de parler sur les lèvres, on se félicitait du temps pur. Le pauvre du seuil recevait les aumônes, et dans le ciel qui riait, tous les blancs pommiers de la terre semblaient s'être envolés. « Jésus est ressuscité !» me dit ma mère, et je le répétais après elle en l'embrassant. Son front soucieux d'habitude resplendissait. Des bandes de blé nouveau divisaient les labours roses. Elle me dit encore « Comme ce beau temps fait aimer le bon Dieu !» J'aurais voulu courir ou chanter. J'allais ce jour même chercher Charlot au collège. Je le trouvais dans la cour que le maître des grands surveillait. Il avait imaginé avec Ravet un jeu qui consistait à trouver une boule que l'un d'eux cachait de son mieux. Le croquet, délaissé, alignait ses arceaux, des maillets gisaient à terre. Le ballon était perché, le maître lisait. Il autorisa Charlot à monter pour s'habiller. Ravet consentit à causer avec moi durant que j'attendais, puis nous regarda partir, les mains dans ses poches. Je n'eus pas l'idée de lui demander de venir. Ma mère nous quitta bientôt, mais avec la promesse de revenir prochainement, et peut-être en compagnie de mon père. Son départ me laissa triste. L'isolement me pesa. Je songeais, sans plus les redouter, aux cris de la cour, aux bousculades volontaires, aux coups de pied risqués dans le ballon sorti des camps, à la brusque surprise d'être saisi aux épaules et maintenu comme un obstacle entre deux joueurs, aux menaces de Rupert qui feignait trois fois de vous lancer la balle et frappait lorsqu'on ne s'y attendait plus. Quel bruit il eût mené dans le jardin paisible! Les arbres auraient connu ses assauts et peut-être quelques moineaux fût-il tombé, blessé d'un jet de pierre. Charlot, lui, ne savait que suivre à quatre pattes les insectes
et faire mousser les escargots. Je ne manquais pas, cependant, de l'aller chercher encore, mais pour l'attendre seulement quelques minutes dans la cour. Je me sentais pénétré de la tristesse qui emplissait le bâtiment désert. Une gamme venait de la salle à musique où quelques maîtres s'essayaient au piano. On entendait les coups de pioche du jardinier au fond du potager ou la chanson d'un domestique dans les salles vides. Je me dépêchais d'emmener Charlot. Il me contait que Ravet fouillait, un à un, les casiers des études, et le taquinait au dortoir où il couchait seul, parce que le maître gagnait doucement sa chambre dès qu'il les croyait endormis. Les jours avaient repris leur train ordinaire sous un ciel tendre, qui demeurait clair plus longtemps, et dont l'indulgence les faisait faciles à vivre. Mon ennui même m'était doux. Le matin était un lac frais, l'après-midi un bain tiède de silence, où tombaient, en tournant, des fleurs de marronnier. Assis sur le banc, l'esprit ailleurs qu'à mon livre, j'émiettais mon goûter à une couvée de poussins dont la mer picorait les œillets brillants de mes souliers. Il fit si bon, un soir, que ma tante sortit avec moi, après dîner, sur la terrasse. Une lueur auréolait le toit du hangar, et bientôt la lune s'y montra toute ronde. Elle montait lentement, parmi de petits nuages, les vapeurs de sa surface dessinaient une vague géographie. Ma tante croyait y voir un homme chargé de bois qui passait. Mais Terouet avait démenti que la lune fût habitée, et gagé à Bereng que cet astre était mort, comme le serait un jour la terre. Monsieur Lorrain lui avait donné raison. La fraîcheur nocturne se faisant plus sensible, nous rentrâmes pour gagner nos chambres, et comme je retrouvais dans la mienne toutes mes anciennes frayeurs, je me pris à regretter la veilleuse, l'alcôve protectrice et le sommeil en commun du dortoir.
Fin de la section 5. Section 6 de L'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Troisième partie. 3. On rentra. La cour avait des feuilles. Leur ombre, à peine bleue, tremblait sur le sol. Les grands ormeaux qui d'abord s'étaient fleuris jusqu'au faîte d'une mousse violette, puis ornés de 1000 sequins verts, laissaient neiger sans cesse leurs graines prises dans une écaille. Les garçons, chaque jour, après 5 heures, ramassaient ces graines à la pelle pour les emporter dans une brouette. Le bruit de leurs balais nous venait en étude avec le cri des moineaux. Il faisait déjà chaud. On ne jouait plus au ballon que la veste enlevée et la figure vite rougie. Certains se groupaient au pied des arbres pour lire ou se montrer des albums de timbres rapportés des vacances. Presque tous étaient revenus avec de nouveaux habits. Mes gens portaient un complet de drap gris et un chapeau de paille. Rupert, un costume de coutil. Bereng se parait de cravate claire qu'il échangea bientôt avec Calva contre un canif. Aucun ne différait de prendre les vêtements donnés pour l'été par la famille. La cour en avait un air de fête, mais les externes s'y distinguaient encore par leur col blanc, le nœud soigné de la lavalière, par leurs souliers mieux cirés aussi. Il y avait un nouveau dans notre étude. Un garçon de 12 ans, d'une grande beauté de visage, mais que l'indolence de son regard rendait sans attrait. Il fut, comme je l'avais été, l'objet d'une curiosité, dont son indifférence le délivra promptement. Aux récréations, il restait adossé contre un arbre ou assis au seuil d'une classe, les yeux vagues, les mains posées, paumes ouvertes, à côté de lui. Je dus lui céder ma place, selon le désir de M. Lorrain, qui me mit au fond de l'étude, parmi les élèves de 5e, à côté de Mouque, et près d'une table où Rupert était seul. Charlot demanda inutilement à me suivre. Le soir, à dîner, il me conta que son voisin, qui s'appelait Daunis, possédait de l'encre dorée avec laquelle lui, Charlot, pouvait écrire son nom sur ses cahiers. Le nouveau s'en était peint les ongles, et avait encore laissé Charlot l'imiter. Je fus satisfait de ma nouvelle place. Mouque, ses devoirs terminés, voulait bien me faire mes problèmes. Il travaillait avec de larges lunettes destinées à rectifier un défaut de sa vue. Mais c'est par-dessus leur verre qu'il me regardait lorsque je lui adressais la parole. Cela le vieillissait et m'intimidait un peu. Dès le premier soir, il crut devoir me prévenir de ne pas m'illusionner sur mon changement de place, et que je n'en resterais pas moins en sixième pour être venu près de lui. À ma droite, Rupert demeurait longtemps absorbé sur le texte de ses devoirs. Il mâchait fortement l'extrémité de son porte-plume, qu'il essuyait ensuite sur la table comme un pinceau. Il écrivait peu et fort vite. Cependant, il se tenait sage et se contentait de faire passer un billet à Mouque lorsqu'il renonçait à résoudre quelques difficultés. Celui-ci haussait les épaules et disait n'avoir pas le temps de s'occuper d'autrui. Puis il finissait par faire ce qui lui était demandé en jurant que cette complaisance serait la dernière. Comme je les séparais, je dus me charger des messages. Rupert toussait légèrement et jetait le papier plié sous mon banc, où il me fallait l'aller chercher pour le remettre au destinataire. Il semblait m'ignorer quand, à mon tour, je lui faisais passer la réponse que j'avais soin, en me penchant, de déposer sur sa table. Il ne me remerciait pas même d'un regard. Quelquefois, il m'appelait et m'ordonnait de prévenir Mouque, avec qui il causait par-dessus ma tête penchée. Je vis un jour Calva, qui ramassait les papiers froissés, lui pincer une jambe, sans obtenir le cri qu'il espérait. Rupert se contenta de repousser le petit, qu'il fit rouler par terre, et ramena son mollet pour le frotter, en continuant de lire. Rupert se trouvait encore à mon côté, au dortoir. Chaque soir, dès le signal donné, je le voyais sortir du rang, venir à son lit et se dévêtir avec adresse. Il enlevait sa veste, une chemise souple, et massait un instant son torse nu. Je m'étonnais qu'il ne portât pas de gilet de flanelle. Mais, à la remarque que je lui en fis, il répondit qu'il les laissait aux femmes, et j'eus honte du mien, qui était long, avec des manches. Dès avant Pâques, il avait demandé à M. Lorrain la permission de se laver le haut du corps avant le coucher. Mais cela ne pouvait se permettre, et il se contentait d'un massage et de quelques mouvements de bras, toujours vite interrompus par le maître qui craignait de voir se généraliser une gymnastique déjà imitée par Méjean, Mouque et Bérang. La chemise passée, il sautait au lit et, tourné de mon côté pour éviter le rayonnement de la veilleuse, il attendait le sommeil qui ne tardait pas à le venir prendre. Pendant ce temps, je me déshabillais moi-même, sans rapidité, ne sachant pas dépouiller d'un seul coup caleçon, bas et culotte, et aussi parce qu'avant de retirer ma chemise, je m'assurais que mon scapulaire fût bien dissimulé. Le réveil nous était signifié dès 6 heures par la cloche de la cour, longuement sonnée. Un peu avant, M. Lorrain laissait l'alcôve dans laquelle nous l'entendions quelquefois s'habiller et faisait les 100 pas dans le dortoir où l'habitude, le jour naissant et le dernier passage du veilleur, nous réveillait à peu près tous. Il frappait 3 coups au premier appel de la cloche, et aussitôt chacun bondissait de son lit pour passer sa culotte et courir prendre place au lavabo près duquel le nombre insuffisant des robinets forçait les moins prompts à l'attente. Mon retard était le même qu'au coucher. J'en profitais pour regarder, sous la buée des vitres qu'il était défendu d'essuyer, le ciel s'éclairait au levant de traînées pourpres dont les milliers de gouttelettes couvrant le verre s'irisaient. On bâillait dans l'air lourd d'haleine mêlée et, bien que le maître y veillât, certains ne s'étaient mouillés qu'à peine la figure à l'ordre donné de descendre. Beaucoup d'entre nous, pourtant, se lavaient bien et cela même empêchait les autres. Bérang, Méjean, Terrouet, malgré des punitions reçues pour ce motif, retournaient les robinets de telle sorte que l'eau jaillit sur leurs visages qu'ils frottaient à deux mains. Rupert, enfilant sournoisement ses culottes avant le signal du lever, se trouvait des premiers au lavabo, ainsi que quelques autres qui usaient aussi de ce stratagème. La chemise ouverte, les manches troussées, il se couvrait de savon les bras, le cou, la face, la tête, et gardait tout le jour, jusque dans ses cheveux ras, une odeur de lessive. Le grand Charlot craignait l'eau froide. Son frère se faisait un masque de mousse savonneuse et grimaçait pour qu'elle n'entrât pas dans ses yeux ni dans sa bouche. Il fallait surveiller Calva, peu soucieux de toilette, et Ravet qui mouillait sa serviette et revenait simplement l'étendre sur la tringle au pied du lit de fer. Beaucoup ne faisaient que le strict nécessaire et négligeaient le soin de leurs dents. Dès le premier jour, on s'aperçut que le nouveau se serait volontiers dispensé d'un grand nettoyage. Il avait fallu le tirer du lit. Et M. Lorrain dut l'autoriser à demeurer après les autres afin qu'il achevât de se préparer. Il portait long ses cheveux, qui étaient doux et légers. Il m'avait réveillé dans la nuit en appelant sa mère. on ne fermait plus l'après-midi la porte de notre classe dont le soleil chauffait le seuil. De ma place, j'apercevais les cours désertes où les moineaux se roulaient dans la poussière, se poursuivaient, où des feuilles détachées tombaient en planant. Par moments, de la classe des tout-petits, venait le bruit d'une lecture en chœur que la maîtresse scandait à coups de règle sur la chair. L'enfant méchant, l'étang charmant, luce, russe, puce, ou encore une chanson que j'avais fini par retenir. Vole, vole, petite mouche, sur ma main, ne te pose pas, car si par malheur je te touche, je le crains, tu périras. Un méfait cruel offense le ciel. C'étaient presque des bébés à collerette et cheveux enrubannés, dont les sorties ne coïncidaient pas avec les nôtres. Il y avait, au mur de notre classe, un planisphère et des tableaux représentant les races humaines et les diverses parties de la fleur. Un autre montrait la mort de Cramne, fils de Clotaire, dont je ne trouvais pas le récit dans mon histoire. Au cours des mois précédents, tout cela m'avait été une distraction suffisante pour que j'oubliasse de suivre la leçon, perdue en rêve sur la mer australe ou la cordillère des Andes, mais à présent que le soleil brillait, je regardais le balancement des branches et, par-dessus la haie, tout au fond, le mur de clôture, après lequel je savais que s'étendaient les champs. Bien que l'étude fût plus spacieuse et la chaleur décrue, M. Lorrain laissait une des portes entr'ouvertes après la rentrée de 5 heures. Mais, une fois, le directeur qui nous surprenait de sa visite la fit fermer. On ne le voyait guère que pour ses inspections inattendues. Il entrait brusquement et, s'arrêtant, observait d'un coup d'œil la tenue générale. Le même mouvement nous courbait tous sur nos tables. Sournoisement, les mains habiles faisaient disparaître un livre interdit, glissaient dans un cahier, la lettre commencée. Sans un geste apparent, l'ordre s'établissait, mais point assez tôt que le directeur n'en saisît quelque chose, ni que son doigt ne désignât un coupable qui se trahissait lui-même en rougissant. Il faisait ensuite, les mains derrière le dos, le tour de l'étude, rectifiait d'un signe une attitude, ouvrait au hasard un casier qui se trouvait être le plus mal tenu, et sortait en saluant le maître, resté debout. L'étude, alors, respirait. À côté de cette apparition, celle, plus fréquente et prévue, du surveillant général, nous laissait presque indifférents. Le bureau de celui-ci était visible à tous. Lui-même se montrait sur le seuil au moindre bruit suspect en cours. Il assistait à la rentrée des études et des classes, surveillait le réfectoire et montait souvent au dortoir. Il nous devenait aussi familier que les maîtres, mais une atmosphère mystérieuse enveloppait le directeur. L'entrée de son cabinet avait 2 portes, dont l'une matelassée, entre lesquelles tout bruit de voix venait mourir. Lorsque la semonce du surveillant ne suffisait pas à remettre en bonne voie l'élève dont un maître s'était plaint, cet élève se voyait appelé chez le directeur, d'où il sortait en pleurs, sans qu'on pût rien savoir de l'entrevue. L'étude en devenait silencieuse, et l'on y entendait les hoquets par quoi s'achevaient les crises de larmes. Le directeur venait encore la nuit au dortoir, réveillait un ronfleur qui tressaillait de le reconnaître, et le bruit de son passage courait de lit en lit, à mi-voix, le matin, jusqu'à ce que les plus familiers en fissent confidence au maître, qui en prenait prétexte pour nous prêcher la bonne tenue. Les soirs d'hiver, lorsqu'on pouvait obtenir de sortir, on voyait la fenêtre du cabinet éclairée et une grande ombre penchée s'y dessiner. En passant devant elle, les rangs marchaient doucement et chacun parlait plus bas. Un jour, le bruit se répandit dans la cour que le maître des moyens venait d'être appelé lui-même chez le directeur, et des groupes se formèrent pour l'en voir sortir. Mais la cloche sonna trop tôt, le surveillant prit la place du maître absent. Lorsque celui-ci revint, une grande rougeur couvrait sa face, et il marcha longtemps devant la chaire. Il s'arrêta pour écrire nerveusement une lettre qu'il dut recommencer. Ses élèves, menés de façon brusque et despotique, riaient entre eux et bourdonnaient en chœur pour témoigner une hostilité dont ils s'irritaient encore. Nous l'entendîmes crier après l'un d'eux qu'il chassa et que le surveillant vint ensuite accompagner chez nous. Le surlendemain, il partit après l'étude du matin et un nouveau maître prit la chaire à 10 heures. Il avait fait scandale en ville, dans un café. Un externe qui le sut par son père nous l'a pris. On disait aussi qu'il fumait en promenade et ne se levait pas à temps au dortoir. Ma mère m'écrivait affectueusement, mais ses lettres reprenaient peu à peu le ton grave. Elle n'y parlait plus de sa promesse de venir avec mon père. L'ennui des vacances, un instant apaisé, me ressaisit. Je me sentais seule, au milieu même de mes camarades. J'enviais Florent et Mouk, qui se promenaient ensemble dans les préaux, et s'asseyaient pour lire au même livre. Ils s'attendaient l'un l'autre, au bas des pages, et leurs fronts se touchaient. Bereng et Terouet, malgré leurs querelles, semblaient ne pouvoir vivre séparés. Les cinq ruraux partageaient leurs provisions au goûter, et les mêmes fautes se retrouvaient dans leurs devoirs faits ensemble. Je ne sais quel commerce liait Calvat et Ravet. On les trouvait, échangeant des choses qu'ils cachaient vite, et de la monnaie sonnait quelquefois dans leurs doigts. Rupert était seul assez fort pour vivre sans personne, car mes gens, qui ne le laissaient guère, n'en recueillaient que de l'indifférence, et n'eût pu compter sur son aide que pour se défendre contre les coups. Il jouait sans cesse et semblait ne chérir que le ballon qu'il frappait du pied, des poings et encore de la tête. Il se plaisait à passer brusquement entre ceux qui causaient, à les prendre comme un obstacle pour tourner autour d'eux, ou à les faire s'embrasser par force en courbant leur nuque sous ses paumes. Il n'avait d'attention que pour les grands, auxquels il lui tardait de se mêler. Chez nous, il décourageait toute avance. C'est lui surtout que j'aurais souhaité pour ami. J'avais la sensation qu'il ne me voyait pas. Un jour, une averse subite nous força de nous réfugier sous le toit du préau, où nos pieds firent lever tant de poussière que les maîtres voulurent nous empêcher de courir. Ils avaient le plus grand mal à se faire entendre lorsque Rupert se mit à leur service et nous rangea tous sur une seule ligne en nous défendant de bouger. Quelques-uns s'avançant encore, il les repoussa et promit une gifle au premier qui sortirait de l'alignement. Je fis un grand pas. Il frappa ma joue et passa. Je repris ma place avec moins de ressentiment que de tristesse. La rigole du préau était jaune de pollen et l'on croyait à une pluie de soufre. Une odeur chaude venait de la cour. Une autre fois, il se trouva que nous eûmes à faire la même narration que la cinquième. Je vis le soir Rupert réfléchir longuement sur le texte. Et je me mis à écrire avec une ardeur affectée qui réussit à attirer l'attention de mon voisin. Il s'agissait d'un aiguilleur qui devait diriger un train sur la voie même où son enfant s'aventurait. Quand j'eus relu mes quatre pages, je les tendis à Rupert en le priant d'apprécier mon travail. Il voulut bien lire ma copie. Le lendemain, le professeur vint en étude et, constatant que nos bancs se touchaient, il sourit et signala au maître les analogies constatées dans nos devoirs. Je fus accusé d'avoir copié. Rupert devint très rouge et ne dit pas un mot. On crut qu'il craignait d'être puni pour m'avoir aidé. Le dimanche suivant, je n'allai pas à la grangère. Je suivis, comme les autres, la promenade. La route était poudreuse, sans arbres. Le soleil chaud n'y laissait d'ombre que celle d'un talus. Je m'appliquais à marcher dans cette étroite bande foncée. Je n'étais pas triste et ne regrettais rien. Une sorte d'ivresse emplissait mon cœur, et je ne l'aurais point échangé contre le doux repos qu'il m'eût été possible de goûter dans le même temps à la grangère. Autour de moi, mes camarades allaient d'un pas lourd, leurs mouchoirs en couvre-nuque. Ils cherchaient à s'attarder pour déjouer la surveillance et dérober dans les champs les cerises ou les fruits verts qui déjà chargeaient les branches. Charlot ramassait des insectes qu'il enfermait dans une boîte de pastilles percée de trous d'épingle et me montrait parfois ses captures. Soudain, Rupert me rejoignit. La marche amenait le sang à son visage. Il avait ôté sa veste qu'il portait comme un manteau. Il posa son bras sur mon épaule et nous allâmes quelque temps ainsi. En longeant un champ de vigne, la vue d'un cerisier lourd de fruits arrêta mes camarades, que le maître obligea d'avancer. Rupert me demanda si j'avais soif et, sans attendre, s'agenouilla comme pour rattacher les cordons de ses souliers. Puis, laissant passer quelques élèves qui nous suivaient et le maître lui-même, il bondit parmi les rangs de vignes entre lesquels il se dissimula. Il me rejoignit au tournant de la route, à la corne d'une haie, derrière laquelle il se leva comme je passais. Il fit quelques pas sans rien dire, mais bientôt, tirant une poignée de cerises de sa poche, il en emplit la mienne. Nous nous régalâmes sournoisement. Ravet seul, qui avait flairé le larcin, vint tourner autour de nous. Rupert dut acheter son silence et demeura près de moi pendant le reste de la promenade. On rentra trop tôt, à mon gré. Je ne doutais plus d'avoir gagné l'estime de mon camarade, et je ne pouvais assez me louer du procédé qui me l'avait mérité. Je rêvais, pendant toute l'étude, à la douceur que cette amitié allait mettre dans ma vie, et je fus très étonné qu'on m'appelât au parloir où Justin venait, de la part de ma tante, s'informer de la façon dont j'avais supporté la consigne. Il me trouva serein et s'en fut rassuré. Rentré en étude, je vis Rupert s'absorber volontairement dans une lecture d'où je tentais vainement de le tirer. Au réfectoire, je laissai Ravet et Calvat, qui mangeaient près de moi, se partager mon dîner dont je ne voulus que le dessert. Déjà, Rupert ne me prêtait plus la même importance. Il feignit de ne pas me voir en sortant pour le coucher. Je montai l'escalier du dortoir, derrière les autres, avec Daunis, dont c'était l'habitude de s'attarder ainsi. Au moment d'entrer, et comme nous touchions le seuil, je trébuchai et me retins à son épaule. Son visage se trouva si près du mien que je l'embrassai de toutes mes forces. Le nouveau maître avait bien du mal à tenir la deuxième étude. Les élèves s'étaient aperçus de la timidité qu'il cachait sous un masque sévère. Videux, célèbre chez les moyens par le cynisme qu'il faisait paraître, attirait sur ses yeux, qui ne se baissaient pas, les yeux de ce jeune homme pour l'obliger à détourner le regard. Il l'inquiétait en affectant de travailler en cachette, et ne lui épargna aucun des tourments habituels. Nous savions ces choses par le grand Charlot qui les comptait dans la cour au milieu d'un groupe. Le nouveau maître avait un long nez qu'il retrouva silhouetté à la craie jusque sur la chair, et en l'honneur duquel les élèves se mouchaient avec excès. Il rougissait aisément et, décontenancé, branlait la tête. L'étude entière répétait aussitôt ce mouvement. Comme il se dominait peu, Videux le poussait à la colère en affectant la surdité contre toute observation. Il lui marcha même sur le pied en le frôlant à la sortie. Le maître faillit frapper. La division était en joie. Plus que jamais, le bruit de ses rires nous venait avec celui des murmures à travers la cloison. Dès que le désordre commençait à côté, M. Lorrain promenait sur nous ses yeux inquiets. Quelque chose de la dissipation voisine se communiquait chez nous. Ravet battait la mesure et chacun se sentait l'envie d'imiter les moyens. L'un de nous, qui s'était bien tenu jusqu'alors, se dérangea. Un soir, il coiffa sa casquette, se fit des guides de ficelle, puis, agitant sa table, prétendit mener un attelage fougueux. L'étrangeté de sa conduite surprit M. Lorrain, qui le considéra un instant et le vit si décidément hostile qu'il vint à lui. Aux questions du maître, l'élève, qui s'appelait Fortin, répondit qu'il s'ennuyait et qu'il voulait se distraire. M. Lorrain examina les devoirs achevés qu'il se fit soumettre et autorisa Fortin à lire, bien que l'heure n'en fût pas venue. Le lendemain, Fortin recommença de se mal tenir, et la lecture permise demeura sans effet. Les menaces de renvoi n'obtinrent pas davantage. M. Lorrain voulut feindre l'indifférence, mais l'étude s'intéressait au conflit, et Fortin, provoquant le rire, le maître, à bout de patience, le chassa. Il sortit avec impertinence, muni d'un billet à l'adresse du surveillant. Nous ne revîmes pas notre camarade de la journée. Le soir, nous le retrouvâmes dans son lit où il avait dîné. Pendant quelque temps, il se montra plus calme, mais tout le monde comptait sur lui. M. Lorrain n'était plus qu'à peu de jours de son examen de licence et paraissait fatigué. Son endurance exercée pendant l'année s'épuisait. Il restait prudent encore dans les hostilités avec Fortin, mais il était sans indulgence pour l'innocente agitation des petits. L'un d'eux, placé près de lui, éclatait de rire à tout propos. C'était un externe de la classe enfantine, presque incolore, avec des cheveux d'albinos et des yeux déteints. Rappelé à l'ordre, il s'appliquait à sa page, la langue à demi tirée et suivant de tout le corps le mouvement de sa main. Mais le moindre geste, une toux quelque part, le détournait de la besogne et, le porte-plume dans la bouche, il riait de nouveau et exaspérait M. Lorrain qui le chargeait d'un long pensum. Ce n'était point qu'il manquât d'attention. Je le vis si bien observer une mouche lustrant ses ailes que le maître l'appela deux fois sans se faire entendre et dut le réveiller d'un coup de règle sur la table qui le fit se dresser, les yeux effarés sous un battement de paupières. Les plus sages aspiraient à la détente, les récréations le manifestaient. Les actifs y restauraient les jeux violents du ballon et des barres, Les autres s'allongeaient sur les marches de la chapelle. Terrouet avait organisé une chasse à l'homme, inspirée de ses livres d'aventure. Les grands, qui ne jouaient pas, s'accoudaient à la barrière et cherchaient à nous parler, malgré la défense sévèrement faite. Leur maître, qui obtenait la paix en la leur donnant le plus possible, ne paraissait pas les voir, mais M. Lorrain empêchait de notre côté ses conversations par-dessus l'allée et groupait autour de lui, en causant, ceux qu'il trouvait le long de la balustrade. Les grands le surnommèrent Socrate. Un long manteau qu'il portait habituellement rejeté sur l'épaule avait peut-être contribué à cela. Videux, qui marchait la poitrine rentrée et qui était blême avec un nez camard, le traita même de jésuite. Et Bereng écrivit ce nom dans le sable à l'endroit où devait passer M. Lorrain. Cependant, les soirs devenaient tendres, un acacia, presque étouffé par les ormeaux, commençait à se fleurir de grappes blanches. Par son aimable visage, Daunis attirait les sympathies, mais sa nonchalance rendait vain tout essai de liaison avec lui. Il trouvait dans ses livres des billets que les grands y déposaient. Il les lisait, la tête cachée par la couverture de son atlas, et souriait sans prendre la peine de répondre, malgré le conseil que lui en donnait Courtot, placé derrière lui. Courtot avait une voix et des manières de petite fille. Il se démenait fort vis-à-vis de la grande cour, sans en obtenir beaucoup de récompenses. Aussi s'intéressait-il à la correspondance de Daunis. Il osa même répondre plusieurs fois pour celui-ci, en lui empruntant de l'encre dorée. Courtot avait pourtant quelque succès auprès de Bereng, qui lui adressait des vers. Nous ne tardions jamais à connaître ses envois, en général des quatrains, parce que l'auteur et le destinataire les répandaient également. Il m'arriva d'en copier, la césure y était parfois inattendue. Il y en avait dans le goût de ceux-ci qui s'intitulaient « rêverie » et se disaient « inachevés ». C'était par une nuit sereine et sans étoiles. Sur l'océan, on ne voyait aucune voile. Parfois, le cri d'une mouette, rauque et rude, réveillait les échos de cette solitude. Il s'en trouvait de plus proprement didactique. Ces vers, à l'un de mes amis, je les dédie, afin qu'il apprenne ce que la calomnie, entre camarades, peut causer de ravages. Surtout, ne l'oublie pas, car c'est un conseil sage. Courtot ne profitait pas assez d'aussi précieux avis et se plaisait à colporter de prétendues médisances qu'il inventait à plaisir et qui le firent surnommer la portière. Quant à Daunis, son calme et la blancheur de son teint lui valurent le nom de « pain au lait », par lequel on le désigna beaucoup ensuite. Il avait la passion du dessin au point de négliger ses devoirs pour crayonner en études. On trouvait des croquis jusqu'en marge de ses cahiers et toutes les images de son histoire étaient passées au crayon de couleur. Il s'employait à cela durant les récréations et ce fut la seule chose que je vis jamais l'intéresser. Il devenait alors très beau parce que son regard s'éveillait et qu'un sourire animait sa bouche. Sa lèvre supérieure était d'un modelé si pur que je la comparais à deux ailes d'ange, et que cela me paraissait être le signe d'une sagesse que je ne possédais point. Un après-midi, il resta en étude après les autres et traça ma caricature au tableau. J'y étais de profil. L'œil, cependant, s'y voyait de face avec une toute petite prunelle rejetée dans le coin. On me reconnut si bien à la rentrée que Courtot se hâta d'aller mettre au-dessous du chef-d'œuvre « Portrait de Gilles » et de signer du nom de l'auteur avec le pseudonyme qu'on lui avait donné. M. Lorrain, qui rentrait le dernier, ne put s'empêcher de rire et s'étonna de la vérité du regard. Ce même jour, je trouvai des fleurs dans mon casier et je m'en émus. Mais je sus vite qui les y avait mises en voyant de loin Charlot me sourire et me faire signe que ce n'était pas lui.
Fin de la section 6.